Domingo, domingo, catene, catene.
C'est pas du vent.
Vos tenés que entrar de Cumana, quiero igual que entra con Cumana.
C'est pas du vent.
Catene, 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 catene.
Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Alors que les rapports scientifiques s'accumulent pour nous alerter sur l'incroyable vitesse à laquelle disparaît la biodiversité, la France, dont le président a été désigné récemment champion de la Terre, pourrait construire la plus grande mine à ciel ouvert de son histoire en pleine forêt amazonienne. Le projet Montagne d'Or, une mine d'or à ciel ouvert au sud de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane française, divise la population locale et les décideurs politiques. Ce sont tout simplement deux visions du monde qui s'affrontent.
Vous pouvez bloquer les gens à la frontière pendant un certain temps, mais tant qu'ils sont attirés par l'or de la Guyane, ils viendront. Donc l'intérêt d'une mine moderne, c'est qu'on a des récupérations très élevées, de 94%, derrière il n'y a plus d'or. Et on ne peut pas éternellement garder le coffre-fort, un jour il faut le vider. Il vaut mieux que, quand on vide le coffre-fort, ça bénéficie à la Guyane, et surtout que ça se fasse dans des conditions respectueuses des hommes et de l'environnement.
Nous, en tant qu'Amérindiens, on refuse que notre terre soit saccagée, que la terre soit retournée pour extraire de l'or qui va retourner sous terre dans des banques et participer à une spéculation mondiale qui se fait là-dessus et que les riches s'enrichissent encore plus et que les pauvres s'appauvrissent encore plus. On ne veut pas participer à ça.
Le gouvernement français doit statuer d'ici la fin de l'année. Nous allons aller en Guyane pour voir les enjeux économiques et environnementaux, en Afrique aussi, où l'exploitant potentiel de la mine Nordgold exploite déjà des sites, et vous pourrez vous faire votre propre avis à la fin de cette émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Pascal Canfin.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de WWF France. Vous venez de publier le rapport Planète Vivante qui rappelle que 60% des vertébrés ont disparu en 40 ans. Et c'est dans ce contexte que la France tergiverse pour savoir si oui ou non il faut creuser une mine d'or sur 8 km² en forêt amazonienne.
Oui, et vous le rappeliez en début d'émission, le président de la République a été nommé champion de la Terre. C'est vraiment totalement incompatible avec le fait de promouvoir et d'autoriser cette mine qui serait la plus grande mine jamais réalisée sur le territoire français, dans l'Amazonie française. L'endroit qui est prévu pour le projet Montagne d'Or, c'est un endroit où il y a des réserves de biosphère intégrale juste à côté, où il y a plusieurs centaines d'espèces qui sont des espèces potentiellement menacées par ce projet. Et donc, on voit bien que c'est incompatible avec une bonne gestion de l'environnement. Mais je dirais que c'est une évidence. Personne ne va prétendre dire qu'un grand projet minier industriel au cœur de l'Amazonie peut ne pas avoir d'impact sur l'environnement.
Alors, en juillet dernier, lors de la présentation du plan biodiversité, le gouvernement français a clamé un haut et fort, on l'a bien entendu, que la biodiversité est une priorité à mettre au cœur de toutes les politiques publiques. Édouard Philippe, le Premier ministre, nous a même dit que nous devrions assister à un changement d'époque.
Mmh.
Alors ?
Ah ben, il faut lui demander.
On l'appelle ?
Pas, ça ne vous a pas échappé, le porte-parole d'Edouard Philippe. Mais oui, le changement d'époque, c'est quoi ? C'est au fond d'arrêter de considérer que le capital naturel, la nature, les forêts, les animaux, les océans, les fleuves, les rivières, c'est quelque chose qui nous est étranger et extérieur et qui va spontanément, comme ça, toujours se régénérer. Il y a un économiste qui a montré, qui s'appelle Constanza, qui a montré que les services rendus gratuitement par la nature représentaient 1,5 fois le PIB mondial. Ça veut dire quoi en termes concrets ? Ça veut dire que si on devait payer pour les services que les forêts, les océans, les rivières, les fleuves, les zones humides, etc., nous rendent gratuitement, c'est 1,5 fois la totalité de la richesse économique que l'on crée en une année dans le monde. Donc ça veut dire que nous n'avons absolument pas les moyens de nous passer de la nature. Or, nous la détruisons, cette nature. Et ce projet concret de mine d'or en Amazonie en est aujourd'hui, je dirais, le symbole le plus aberrant dans l'espace français. Et comment voulez-vous que la France ait une parole crédible, forte, à l'international, par exemple avec l'actualité au Brésil, tout proche, si nous-mêmes nous commençons à détruire l'Amazonie avec ce genre de projet aberrant.
Alors, pour bien comprendre les enjeux sur place, je vous propose de nous rendre en Guyane justement pour écouter les différents points de vue des acteurs locaux. C'est un reportage d'Igor Strauss et on en reparle après.
Lala,
Pierre Paris, président de la société Montagne d'Or. Le secteur sur lequel se situe notre projet est une zone qui est autorisée pour l'exploitation de mines. Il y a deux réserves biologiques intégrales. Il est important de rappeler que ces deux réserves, le Découdécou et Lucifer, sont protégées parce que ce sont des forêts d'altitude, donc situées sur des sommets. Nous sommes en contrebas, donc quand on dit oui, la pollution de la mine pourrait contaminer les réserves biologiques, on n'a jamais vu l'eau remonter la pente. En revanche, nous avons conscience de l'importance de la gestion de l'environnement. Pour de multiples raisons, nous ne sommes pas au Suriname, nous ne sommes pas au Brésil, nous sommes en France, nous sommes en Europe, nous avons une législation qui est stricte. Ça veut dire que, bien évidemment, on respecte l'ensemble de la réglementation, mais on fait le nécessaire pour minimiser au maximum les impacts. Là où on ne peut pas les éviter, les réduire au maximum et puis les compenser. Mais très clairement, on ne peut pas envisager de développer un projet aujourd'hui si on n'a pas un programme de gestion environnementale solide.
Laurent Kell, je suis donc le responsable du bureau WWF France en Guyane. Ce projet industriel d'une ampleur inégalée vise à s'installer à quelques encablures d'une réserve biologique intégrale. Donc une réserve biologique intégrale, c'est quoi? C'est une zone dont la biodiversité est tellement riche, tellement particulière, qu'elle a donc été classée en zone interdite d'accès en dehors des aspects scientifiques. La distance entre le projet mini-industriel envisagé et cette réserve était de 400 mètres dans les premières estimations des industriels. Elle est maintenant réduite à une centaine de mètres, donc une proximité immédiate entre un des fleurons de la biodiversité du nord-ouest guyanais et ce méga projet industriel. Pourquoi un fleuron de la biodiversité? Parce que sur cette zone, un peu plus de 2000 espèces ont été identifiées, dont plus de 120 espèces intégralement protégées. Donc on est vraiment sur des petites collines à très forte pente, à très forte pluviométrie, ce qui fait que d'un point de vue biodiversité, on a affaire à des forêts reliques qui ont vraiment un historique particulièrement long à l'échelle amazonienne. Le fait que ce sont des petites collines, ça permet à des espèces très particulières de n'exister que à cet endroit-là et quasiment nulle part d'autre en Guyane.
Mais le risque zéro n'existe pas. Je pense notamment au bout cyanuré avec la construction donc de cette grande digue. Comment être sûr qu'il n'y ait pas d'incident?
On parle de boue cyanurée parce que très souvent, quand il y a des ruptures de barrage, on voit de la boue. Le stockage de résidus, c'est un stockage de solide. C'est-à-dire que le procédé d'extraction consiste à quoi? On extrait de la roche du sol, cette roche est broyée très finement pour libérer l'or, et l'or est mis en solution de du cyanure. Donc, première chose, on fait tout, nous, pour que le cyanure ne disparaisse pas dans la nature, parce qu'il contient l'or. Donc, ce cyanure est recyclé, donc on travaille dans des cuves en circuit fermé. Une partie de cyanure peut être entraînée avec le résidu, c'est-à-dire le minerai broyé dont on a extrait l'or. Mais le cyanure a cela d'intéressant par rapport au mercure, qui est toujours utilisé très largement par les orpailleurs illégaux, qui, eux, ravagent le pays et produisent aux alentours de 10 tonnes par an, alors que la production légale ne produit que 1,5 tonnes par an. Donc l'avantage du cyanure, c'est que le cyanure s'oxyde naturellement très rapidement. Donc en fait, dans les résidus que nous aurons, nous n'aurons plus que des traces de cyanure. Pour ce qui est de la stabilité, en France, il n'y a pas deux législations, il n'y a qu'une législation. Une législation sur les barrages qui est la même pour un barrage électrique construit par EDF ou pour le stockage de résidus. Donc il n'y a pas plus de risque que notre barrage se rompe. Si le risque de rupture de barrage n'existe pas ou est très 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 peu probable dans le cas des opérateurs métropolitains ou d'outre-mer, il n'y a pas de raison qu'il le soit chez nous.
Concrètement, Montagne d'Or s'engage à préserver l'environnement, à prendre toutes les mesures pour qu'aucune catastrophe n'arrive. Vous, qu'est-ce que vous craignez particulièrement?
Alors déjà, il faut bien comprendre que le projet, c'est une mine à ciel ouvert. Ça veut dire que l'on décape l'ensemble du flanc de colline en question et donc les environs extrêmement proches de la réserve biologique intégrale. Donc il y aura forcément des conséquences environnementales majeures. Il y a aussi l'impact direct de tout ce qui est lié à cette mine, comme l'accès routier, comme la connexion électrique, qui induisent et qui génèrent des impacts, là encore, liés à cette exploitation industrielle envisagée. Donc les aspects environnementaux sont très clairement à charge vis-à-vis d'un tel projet. C'est évident que si Montagne d'Or se met en place, un impact très conséquent sera mesuré et sera définitif sur la biodiversité guyanaise.
Montagne d'Or, entreprise guyanaise, vous souhaite une excellente année 2018.
Je m'appelle Marie Fleury et je suis chercheure en ethnobotanique au Muséum National d'Histoire Naturelle. On est à moins de 500 mètres d'une réserve biologique intégrale. Les botanistes appellent ça les forêts reliques, c'est-à-dire que c'est des forêts qui ont survécu au changement climatique. Donc on est à des échelles millénaires. Donc si vous imaginez que c'est les plus anciennes forêts de Guyane, ça veut dire aussi que c'est les plus anciennes forêts du monde. On se doit de respecter ces forêts qui n'ont même pas encore été étudiées. Et qui sont en plus à préserver en bloc, parce qu'on connaît l'effet de la fragmentation forestière. C'est des bombes à retardement, ça a été désigné comme des bombes à retardement, dont les effets sont nocifs non seulement sur le court terme, mais à long terme également. Imagine une fosse de 2,5 km, 400 mètres de large, entre deux réserves biologiques intégrales, avec des explosions tous les jours, 20 tonnes d'explosifs par jour. Quand même. Le bruit, la poussière, les animaux vont fuir. Les animaux, il ne faut pas oublier que tout est lié dans la forêt. Les animaux ont un rôle très important dans la dissémination des plantes, avec la dissémination des graines. Donc c'est ce qu'on appelle la fragmentation. Donc là, on va avoir une rupture au sein même d'une réserve biologique, parce que Découdécou et Lucifer, c'est la même réserve biologique intégrale hein, qui a été coupée en deux. Donc on imagine bien l'impact que ça peut avoir sur la réserve biologique. C'est énorme. C'est à nous de montrer l'exemple en France qu'on peut prendre soin d'une forêt tropicale humide, qui a un rôle essentiel, notamment en termes de lutte contre le changement climatique, mais aussi par rapport à la captation de carbone. On sait très bien que là, si ce genre de projet se fait en Guyane, on va multiplier au moins 50% la dette carbone, alors que c'est justement un territoire comme la Guyane qui peut se valoriser à travers justement son rôle sur la captation de carbone, donc le changement climatique à l'échelle mondiale. Eh bien, c'est à nous de montrer l'exemple qu'on est en mesure, en capacité de la préserver contre une destruction irréversible.
Philippe Boré, secrétaire fondateur de l'association Mayuri Nature Guyane et cofondateur du collectif Hors de Question. Dans le sous-sol guyanais, là où il y a l'or, il y a généralement ce qu'on appelle les métaux lourds. C'est l'arsenic, le cadmium, le plomb, le mercure, le sélénium et bien d'autres. Ces métaux lourds sont totalement inoffensifs quand ils sont à 200, 300 ou 400 mètres de profondeur dans la gaine de la roche. Mais dès qu'ils sont extraits, broyés en poudre, ils vont se libérer et ils vont devenir très toxiques, des poisons violents à la lumière et au contact de l'eau, au contact des précipitations, et ils vont générer ce qu'on appelle le drainage acide minier. Un drainage acide minier que nos experts de l'ADEAL disent qu'ils vont pouvoir endiguer par des géomembranes.
Que sont les géomembranes ?
Donc les géomembranes, c'est des tissus de quelques millimètres d'épaisseur qui vont être mis dans la fosse pour protéger les nappes phréatiques de ce drainage acide minier. Donc d'un côté, on va retenir ces boues cyanurées remplis de métaux lourds par des digues, mais pour protéger ces nappes phréatiques, on va mettre des géomembranes qui ont du durée de vie qui sont tout à fait discutables, parce qu'aucune géomembrane n'a été testée dans le milieu amazonien de la Guyane, avec l'humidité que nous connaissons, l'acidité de la latérite et toutes les perturbations météorologiques qui vont. La Commission nationale du débat public nous a permis, aux populations et aussi aux opposants, d'avoir un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas présents dans le document du maître d'ouvrage. Par exemple, les teneurs en métaux lourds du gisement du sous-sol du Yannet. Nous l'avons obtenu via une fiche technique il y a simplement quelques semaines et nous avons pu déterminer, grâce à ces chiffres, que si l'industriel canadien et russe vont partir à l'issue de 12 ans avec 85 tonnes d'or, c'est plus de 200 000 tonnes de métaux lourds qui vont rester sur ces collines de déchets qu'il y a aux alentours. Et dans ces 2000 tonnes de métaux lourds, il y a, on peut citer, 13 700 tonnes d'arsenic, mais aussi des 37 000 tonnes de chrome, du plomb, 12 tonnes de mercure. Bref, un héritage que nous laisse cette compagnie qui est inacceptable au regard du peu de bénéfices que la Guyane va pouvoir tirer de ce projet pharaonique et imposé par l'État français. Ouais, spécial dédicace à
tous les hypocrites, tous les parasites. Universal façon n'a pas de limite. Sin, voici des lyrics bombastiques qui sonnent dans la tête comme de la dynamite. Lord, bon que ça nous toutes nous bon que ça.
Alors vous mettez en avant la lutte contre l'orpaillage clandestin, l'orpaillage illégal. En quoi le fait d'avoir une mine légale peut nuire ou empêcher l'orpaillage illégal?
Il est important de rappeler que le choix aujourd'hui, c'est pas où on ne fait rien et on garde la forêt telle qu'elle est et l'or tel qu'il est. Et si on fait la mine, on va détruire le territoire. Non, non, le choix aujourd'hui, c'est aujourd'hui le territoire est pillé. Il est pillé par des milliers de personnes qui, eux, extraient l'or à raison de 10 tonnes par an. C'est l'équivalent de 350 millions d'euros qui partent en fumée chaque année, qui pourraient bénéficier au territoire. Ce sont des conditions de travail terribles. Utilisation du cyanure, du mercure, destruction de la forêt. Si j'utilisais du cyanure, ce serait un peu mieux pour l'environnement. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que si on ne fait rien, ça va continuer. Ça va continuer inexorablement, parce que tant qu'il y a de l'or, il y aura des orpailleurs illégaux. Alors, l'intérêt de développer des mines telles que la nôtre, c'est que les retombées bénéficient à la Guyane. Donc c'est déjà évoluer d'un modèle sauvage, où tout est détruit, à un modèle vertueux. Donc en ça, déjà, c'est une amélioration. Mais surtout, l'intérêt d'une mine moderne, qui utiliserait une méthode de cyanuration, c'est qu'on a des récupérations très élevées, de 94%, derrière il n'y a plus d'or. Et on ne peut pas éternellement garder le coffre-fort, un jour il faut le vider. Il vaut mieux que, quand on vide le coffre-fort, ça bénéficie à la Guyane, et surtout que ça se fasse dans des conditions respectueuses des hommes et de l'environnement.
L'autre aspect qui est important à mentionner, c'est qu'il y a même un risque potentiel que Montagne d'Or accroisse le phénomène de l'orpaillage illégal. Pourquoi ? Parce qu'on disait tout à l'heure que Montagne d'Or va extraire un filon qui est actuellement à moins de 100 mètres de fond et va le mettre en surface. En le mettant en surface, le minerai qui va être traité par le cyanure ne va concerner qu'à peu près un cinquième de la roche extraite par le processus industriel. Les 4/5 de la roche sont considérés comme ayant des teneurs en or insuffisante pour Montagne d'Or pour être traité au cyanure. Teneur insuffisante d'un point de vue rentabilité pour Montagne d'Or, ça ne veut pas dire teneur insuffisante en termes de rentabilité pour les Garimpeiros. Et là, il y a un vrai risque, selon nous. Et nos estimations, ce serait qu'à la fin d'un projet comme Montagne d'Or, environ 14 tonnes d'or soient laissées dans les déchets miniers. Ça voudrait dire générer une nouvelle cible pour les Garimpeiros. Donc pour nous, non seulement Montagne d'Or ne va rien régler en termes de lutte contre l'orpaillage illégal, mais potentiellement, à la fin d'un tel projet, il pourrait accroître l'attractivité du site de Polisnar en laissant derrière lui quelques tonnes en surface auprès des Garimpeiros.
For a heart of gold, and I'm getting
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes en Guyane pour parler du très controversé projet Montagne d'Or. Un projet d'exploitation à échelle industrielle d'un site de 800 hectares dans l'ouest guyanais, situé à quelques mètres de deux réserves naturelles intégrales. Les désaccords sur les risques environnementaux ne sont pas les seuls. Les opposants au projet contestent également les retombées économiques annoncées par la société Montagne d'Or, qui prévoit la création de 750 emplois directs sur 12 ans et la création de 3000 emplois indirects sur la même période. Laurent Kell est directeur du WWF Guyane.
Pourquoi est-ce que ce modèle économique est potentiellement fragile? Parce qu'un projet minier type Montagne d'Or, il est soumis à des aléas que personne ne peut ni contrôler ni prédire à un instant T. Le premier aléa, c'est bien sûr le cours de l'or. Si le cours de l'or va aller à la hausse, bien évidemment, ça va être favorable aux investisseurs qui sont les vrais bénéficiaires potentiels des projets type Montagne d'Or. A l'inverse, si le cours de l'or baisse, ça peut générer une diminution du retour sur investissement et du coup des économies qui vont être prioritairement faites dans d'autres secteurs. Un cas très concret, c'est le cas du Suriname. À la fin des années 2000, le projet Rosebel qui a été lancé au Suriname a licencié à peu près 10% de son personnel du fait d'un cours de l'or insuffisamment haut par rapport au modèle économique d'origine de ce projet. Donc très clairement, sur un projet mini-industriel, l'emploi est une variable d'ajustement et on peut plus ou moins embaucher en fonction du cours de l'or. Donc ça, c'est la première alerte qu'il faut bien garder en tête et qui est une réalité pour Montagne d'Or comme pour la très très grande majorité des projets mini-industriels. L'autre variable importante d'un point de vue économique sur le projet Montagne d'Or, c'est le taux de change entre l'euro et le dollar. Pourquoi ? Parce que les coûts de production se comptabilisent en euros, puisqu'on est en Guyane, on est en France, on est en Europe, donc ces coûts-là se payent en euros. A l'inverse, la vente de l'or, ça se fait en dollars. Pourquoi ? Parce que le cours de l'or au niveau international se compte en dollars. Donc à chaque fois que le dollar se déprécie par rapport à l'euro, ça veut dire concrètement que le bénéfice baisse autour du projet Montagne d'Or. Donc il est à craindre que dans ces cas-là, bien évidemment, les variables d'ajustement qui peuvent être utilisés dans ces cas-là, ce sont les éventuels investissements pour préserver l'environnement, pour en tout cas limiter l'impact, puisque préserver l'environnement sur un tel projet, c'est juste pas possible. Mais l'autre variable d'ajustement, c'est bien sûr l'emploi. Et effectivement, au WWF, nous avons souhaité alerter sur ce qui demeure une réelle fragilité de ce genre de projet hautement spéculatif.
Il n'y a absolument pas de surévaluation. Vous vous rendez bien compte, nous sommes une société privée, donc nous sommes prêts à investir 782 millions d'euros sur ce territoire pour une exploitation minimum de 12 ans. Vous dites bien qu'on espère quand même avoir une certaine rentabilité, sinon il n'y aurait pas de logique à cela. Donc non, on n'a aucun intérêt à surévaluer les résultats. Notre objectif, nous, c'est de faire fonctionner cet outil industriel et puis générer, bien sûr, des profits pour nos actionnaires, mais comme je l'expliquais précédemment, c'est une opportunité pour la Guyane parce qu'on crée l'emploi, parce qu'on crée des opportunités pour les entreprises guyanaises. Aujourd'hui, les estimations tournent autour de 3 milliards d'euros de retombées sur 12 ans minimum. Donc on parle d'un projet qui apporterait énormément à la Guyane.
Du travail certes, mais du travail qui ne serait pas durable puisque le projet de la mine c'est 12 ans. Et ça, c'est ce que reprochent certains opposants.
Alors, comme je l'indiquais précédemment, nous avons 85 tonnes de réserves, ce qui nous donne une visibilité de 12 années. Mais comme dans toutes les mines, nous avons aussi des ressources. Nous avons 150 tonnes de ressources. Donc en fait, la conversion de ces ressources en réserves vont nécessiter des travaux d'exploration complémentaires. Mais toutes les mines du monde travaillent de la même façon. On commence avec une durée de vie initiale et on sait que chaque année, avec l'exploration, on compense par de l'ajout de réserves les réserves qui ont été extraites. Donc en fait, une mine, c'est minimum 12 ans, mais c'est beaucoup plus à terme. Il y a d'autres projets, déjà en développement actuellement sur le territoire, tel le projet de Plata. Ils construisent une usine de cyanuration en ce moment même. Il y a d'autres projets à suivre. Donc c'est en fait l'ensemble de la filière qui aujourd'hui, la filière d'extraction d'or, est en train de s'industrialiser. Donc Montagne d'Or est le projet dont on parle aujourd'hui, mais il s'inscrit dans un développement de la filière qui est au cœur de l'économie guyanaise depuis le début de l'histoire de ce territoire.
Michel Dubouillet, je suis secrétaire régional de Guyane Écologie et membre de Hors de Question et porte-parole du mouvement du collectif Hors de Question. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui en Guyane qu'on vienne nous faire croire, comme veut le faire Montagne d'Or, que cette affaire de mine est la meilleure chose qui pouvait nous arriver en termes de développement économique. Parce qu'à partir du moment où les mines vont arriver à leur fin, qu'est-ce qu'on aura à offrir à notre jeunesse? Même si les mines duraient une, deux générations, où c'est qu'on va après? Une fois qu'on aura creusé la Guyane, on aura fait de la Guyane un gruyère. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre beau pays?
Et vous pensez sincèrement que si le projet était accepté, si cette mégamine voyait le jour, ce serait la porte ouverte à l'entrée de, d'autres multinationales qui, elles aussi, exploiteraient le sous-sol guyanais?
Mais absolument, on en est conscient, puisque si vous vous penchez sur le site de la DEAL, c'est la Direction de l'Environnement et de, la, de l'Aménagement Local, si vous allez sur son site, vous verrez qu'il y a plus de 25 sites qui sont revendiqués par les multinationales. Donc on voit bien que cette volonté d'exploiter de façon minière la Guyane, c'est le seul objectif qu'a la région, puisque je rappelle malgré tout que la collectivité territoriale de Guyane, à travers son président M. Rodolphe Alexandre, a obtenu la compétence en matière de délivrance des permis miniers. Je dis bien des permis de recherche miniers. Ce qui est embêtant dans tout ça, c'est que le code minier prévoit un droit de suite. Un droit de suite veut dire que si dans leur projet, ils arrivent à démontrer à travers la prospection qu'il y a une teneur en or, on va leur donner derrière le droit d'exploitation, qui est ce droit de suite à la prospection. On voit bien que les textes aujourd'hui, qui sont référencés comme faisant force de droit et force de loi, sont des textes qui sont faits en faveur des miniers, mais pas du tout en faveur de cette biodiversité dont tout le monde se targue, tout le monde dit la biodiversité, nous sommes dans un pays où la biodiversité est reine, nous sommes dans un pays qui est la frontière de l'Amazonie, puisque nous sommes aussi gardiens de cette forêt amazonienne. Nous critiquons, la France critique le Brésil qui fait de la déforestation, mais nous sommes les premiers à vouloir brader notre pays à des multinationales qui va lui faire de la déforestation pour pouvoir exploiter l'or qui est dans notre sous-sol. Donc est-ce qu'on peut accepter que d'un côté on veuille donner des leçons au monde, mais que dans son propre pays, on ne soit pas capable de balayer devant sa porte?
Occupation qui m'a gagné à ton maman qui t'a volé.
Philippe Boré, secrétaire fondateur de l'association Mayuri Nature Guyane et cofondateur du collectif Hors de Question. Quand nous avons commencé cette convergence de lutte au niveau du collectif, nous sommes demandés quel était le passif environnemental et social des multinationales en général. En Afrique, nous avons découvert très rapidement que Norgold s'était implanté au Ghana, mais aussi au Burkina Faso. Nous sommes rentrés en réseau avec l'association Action de Carême, qui est une ONG catholique suisse, qui a rédigé un rapport fabuleux qui parle de l'industrie minière au Burkina Faso. Les conclusions sont sans appel, et je peux citer la conclusion. Les sociétés minières présentes au Burkina Faso, en l'occurrence IAMGOLD et NORGOLD, entre nous soit dit, deux compagnies qui sont installées en Guyane, je poursuis, ont une grande responsabilité dans les violations de droits humains et environnementaux. Et dans ce rapport, on apprend des choses, que le droit à l'eau a été bafoué. On a appris aussi dans ce rapport que les promesses d'embauche locale n'ont pas été respectées, alors que dans ces pays, le salaire moyen d'un minier, c'est une centaine d'euros. Donc, quid de leurs promesses d'embaucher ici localement, en masse, nous sommes très sceptiques. Face à cela, on nous dit, on nous répond, donc les promoteurs du projet, qu'ils soient politiques ou institutionnels, on nous répond que on ne peut pas faire une comparaison avec le Burkina parce que nous avons ici en Guyane, nous sommes soumis aux réglementations de la France qui sont soi-disant strictes. Donc là, nous rentrons en faux par rapport à ça. Malgré que l'on soit sur une juridiction française et une réglementation stricte, les 3500 mines fermées de l'Hexagone continuent toutes, sans exception, de polluer et font toutes l'objet de plaintes des riverains pour des cancers, leucémie ou autres maladies. On peut se rappeler aussi plus près de chez nous, aux Antilles, ces fameux insecticides que des promoteurs, des représentants de commerce avaient considérés comme étant le moyen de booster l'agriculture des Antilles avec ce fameux insecticide, le chlordécone, dont nous ne sommes pas du tout confiants.
Nous sommes la compagnie Minia Montagne d'Or, une entreprise française de 26 salariés basée en Guyane. Les équipes seront recrutées localement et formées avec nos partenaires. Avec un investissement privé de 782 millions d'euros, le projet générera de l'ordre de 3 milliards d'euros de retombées pour la Guyane en salaires, taxes, impôts et sous-traitances diverses, en tenant compte des effets indirects et induits.
Dernière question, est-ce que vous pensez que Montagne d'Or correspond à la volonté de développement des Guyanais ? Moi, beaucoup me font part de leur volonté de développer des secteurs plus durables, agriculture, pêche, tourisme, écotourisme, et que finalement, l'extraction, là, c'est un peu le modèle du passé.
Malheureusement, la Guyane souffre d'une mauvaise image, et c'est dommage parce que c'est un territoire qui a énormément de potentiel. Du potentiel pour l'extraction des matières premières, mais comme vous le citiez précédemment, pour l'agriculture, la pêche, l'exploitation raisonnée de la forêt, le tourisme et autres activités. Ces possibilités existent depuis des décennies. Aujourd'hui, on attend toujours les porteurs de projets. Donc, il est important, à un moment donné, de rendre à la Guyane une certaine attractivité. Et le développement des matières premières, qui n'a pas vocation à embaucher l'ensemble des Guyanais, ou voire même être la seule branche de l'économie guyanaise, permettrait justement de développer les entreprises guyanaises, d'attirer des investisseurs en Guyane pour développer ce fabuleux potentiel. Il n'y a pas un modèle qui exclut l'autre. Il y a de la place pour toutes les activités. Je reviens sur votre remarque sur l'industrie du passé. Il est important de rappeler que l'humanité n'a jamais consommé autant de matières premières qu'aujourd'hui. Et la transition énergétique dans laquelle la France s'engage aujourd'hui et engage ses entreprises va nécessiter plus de métaux que jamais, parce qu'en fait on va abandonner la dépendance aux hydrocarbures pour avoir une dépendance aux métaux, à certains métaux rares et terres rares. Donc il est important que la France, si elle veut participer, maîtrise aussi le type de matière première qu'elle va utiliser dans son industrie. On ne peut pas juste se voiler la face, on aura besoin de cette matière première. Alors on a deux options. On la produit dans des pays qui n'ont pas les mêmes réglementations environnementales, sociales que nous. Et puis, on se dit, c'est pas grave, c'est pas chez nous, on veut pas savoir. Autre option, et qui est une option responsable, est de dire, on a des territoires, dont la Guyane, qui ont besoin de se développer. On a des matières premières, développons un modèle de mine responsable qui puisse être un exemple pour le reste de la planète et qui garantisse à notre industrie de bénéficier de matières premières, on va dire équitables. Sinon, si nous ne faisons pas cette démarche-là, nous dépendrons des autres pour la fourniture de ces matières premières et nous continuerons à soutenir de mauvaises pratiques, ce qui est dommage. On a l'opportunité de faire différemment, de créer de la richesse sur ce territoire. Ne nous en privons pas.
Pierre-Christophe, porte-parole de la jeunesse autochtone. Nous, en tant qu'Amérindiens, on refuse que notre terre soit saccagée, que la terre soit retournée pour extraire de l'or qui va retourner sous terre dans des banques. Et participer à une spéculation mondiale qui se fait là-dessus, et que les riches s'enrichissent encore plus et que les pauvres s'appauvrissent encore plus. On ne veut pas participer à ça. On a une éthique à respecter, et tout ce qui sort de notre terre doit être pour soigner, doit être dans un bon sens au fait, qui doit répondre à une morale quelque part. Et nous, on ne veut pas que nos cimetières soient saccagés pour que des Russes, des Canadiens, des Français, des Guyanais, qui sont déjà beaucoup plus riches que tout le monde, s'enrichissent encore davantage. La France a un discours hypocrite. Quand Daesh détruit des statues, brûle des bibliothèques en Syrie, tout le monde s'indigne. Là, on veut détruire des traces de civilisation amérindienne. C'est légal. Il y a l'INRAP qui répertorie. Après, on prend les vestiges, on les met dans des salles climatisées, stérilisées. Et voilà ce qu'on appelle préservation chez les Occidentaux. Chez nous, la préservation, ça a un autre sens. C'est laisser les choses comme elles sont, des fois. La préservation de la terre, ce n'est pas quelque chose de fun, ce n'est pas quelque chose de mignon, c'est quelque chose d'essentiel en vérité. Et si on veut que nos sociétés continuent, si on veut du bien à nos enfants, il faut qu'on pose une réflexion qui amorce des changements vraiment profonds Mais là, dire que c'est une mine éco-responsable, ça c'est vraiment se moquer de la tête du monde. Et nous, en tant qu'Amérindiens, en tant que peuple premier de ce territoire-là, on essaye de rappeler tout ça, on essaye. Donc à un moment donné, il faut que la France, qui aujourd'hui veut jouer la grande donneuse de leçons au niveau de la préservation de l'environnement, de la lutte contre le changement climatique, etc., il faut que la France écoute le message qu'on a apporté, parce que c'est dans l'intérêt, en vérité, de toute l'humanité.
Ils sont froids, bêtes d'un bois, les manger mots. Bêtes d'un bois, et les manger mots. Bêtes d'un bois, et les dévorer mots. Ils sont froids, bêtes d'un bois, les manger mots.
Reportage signé Igor Strauss. Pascal Canfin, je rappelle que vous êtes le directeur du WWF France. Vous avez entendu les différents points de vue. Dans ce reportage, on entend notamment tout au début du reportage, Pierre Paris, le président de la société Montagne d'Or, qui assure qu'il va minimiser les impacts sur l'environnement. Il a beaucoup d'arguments qui vont dans ce sens. Malgré tout, comme vous le disiez tout à l'heure, on a du mal à penser qu'il n'y aura pas d'impact. C'est impossible.
Alors, c'est d'autant plus impossible que des médias français, pour ne pas les nommer France Inter et Le Monde, sont allés enquêter là où la compagnie russe qui possède le projet Montagne d'Or, l'actionnaire Nord principal de ce projet, opère déjà, notamment en Guinée. La réalité qui est remontée de ces investigations par ces journalistes, c'est que entre les promesses initiales de l'opérateur et la réalité du développement économique, des emplois et de la fameuse maîtrise des impacts, juste, ça n'avait rien à voir. Rien à voir. Donc, évidemment, comme tout porteur de projet, Pierre Paris nous dit que, bien évidemment, ailleurs c'est différent, mais là, cette fois-ci, il va vraiment maîtriser les impacts. Bah, évidemment, non. C'est du discours assez classique porté par les promoteurs de ce type de projet. Il suffit d'aller voir là où ils opèrent et de se rendre compte que le grand écart entre les promesses et les actes, c'est bien évidemment la réalité, là aussi pour la compagnie russe. Un autre argument qui est souvent avancé par Norgold, c'est de dire « Oui, mais nous, on va faire du minier extractif légal qui va assécher leur paillage illégal qui vient notamment des migrants du Suriname voisin. » Là aussi, il ne faut pas faire de l'idéologie, il faut juste regarder comment ça fonctionne partout dans le monde. Partout dans le monde où vous avez de l'exploitation légale industrielle de l'or, ça génère un cortège d'activités illégales périphériques. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Un cortège de trafic, de prostitution, de drogue et évidemment de migrants à qui on va faciliter l'accès et qui vont se dire « Mais s'il y a de l'or pour, à très grande échelle pour la compagnie russe, il y en aura forcément une petite miette pour moi. » Et c'est des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui vont faire ce raisonnement et qui vont arriver, comme on le voit partout ailleurs, autour du projet minier. Et donc l'idée selon laquelle ça assécherait en quelque sorte le gisement de l'exploitation illégale de l'or, qui est un énorme fléau contre lequel le WWF se bat avec l'armée française, par exemple, depuis des années et des années en Guyane, eh bien, c'est vraiment de la poudre aux yeux. Et c'est à la limite de la malhonnêteté intellectuelle, parce que ça ne s'est vu nulle part ailleurs, et il n'y a aucune raison que ça se voit en Guyane.
Alors, vous le disiez, au nord de la Guinée, les populations attendent toujours les retombées positives du site aurifère de l'EFA. Alors, qu'en est-il au Burkina Faso, où Nordgold exploite aussi des sites? Le Burkina Faso, qui est le quatrième pays producteur d'or du continent africain. Nous sommes en ligne avec Yaya Boudani. Vous êtes notre correspondant à Ouagadougou. Alors, combien de sites sont exploités par Nordgold au Burkina?
Alors, Nordgold a commencé ses opérations en 2008 avec l'achat de la mine de Tarpaco et du projet Bissa. Alors, depuis, plus de 900 millions de dollars ont été investis dans le développement et la maintenance des mines, y compris la construction des mines de Bissa et Bouli. Alors, les mines de Tarpaco et de Bissa-Bouli demeurent les employés les plus importants du pays, avec un effectif de presque 2000 employés. Alors, ces filiales génèrent quelque 40% de la production du groupe. Et la société a signé en février 2018 une convention d'exploitation d'une nouvelle mine, celle de Yehou. Et conformément à la législation nationale, le Burkina Faso détient 10% du capital de Nordgold Yehou SA, la société exploitante de ce nouveau gisement.
Alors, quelles sont les retombées économiques pour le pays?
Alors, en ce qui concerne les bénéfices pour le gouvernement burkinabé, les estimations entre 2009 et 2017 font état de plus de 329 millions de dollars payés en taxes et royalties.
Et quelles sont les conséquences de ces mines sur l'environnement?
Un plan de gestion environnementale a été élaboré pour cadrer la gestion environnementale conformément à la réglementation en vigueur. pour le traitement des eaux usées, un parc à résidus et un bassin de recyclage ont été installés pour éviter toute infiltration des effluents miniers dans des nappes phréatiques. Des forages ont été réalisés autour du parc à résidus et du bassin de recyclage pour contrôler la décharge et la recharge de la nappe phréatique et aussi prévenir d'éventuelles pollutions. Et puis, dans le but de prévenir toute pollution des eaux superficielles et souterraines, les responsables de la société affirment avoir établi un programme de suivi annuel et des prélèvements d'eau sont effectués et analysés dans des laboratoires agréés au niveau de la capitale. Et ces prélèvements se font au moins 6 fois par an. Et une politique de reboisement a été mise en place également par la société Norgold. Ainsi, en 2018, une plantation de 3600 plants a été faite sur l'un de leurs sites, soit un total cumulé de 27 800 plants mis sous terre. Alors, malgré toutes ces mesures, Anne, sachez que nous avons échangé avec le maire d'une commune qui abrite l'une des mines de la société. Il assure avoir déjà échangé plusieurs fois avec les responsables de la mine et des responsables gouvernementaux sur la réhabilitation des sites après l'exploitation. Alors, il affirme n'avoir pas vu le plan de réhabilitation des sols après le départ de la mine. Et les populations se posent beaucoup de questions sur l'avenir des minerais qui sont stockés sur de grandes surfaces et la qualité même de la nappe phréatique dans les prochaines années. Comment cela sera traité une fois les mines fermées?
Voilà, pour tout cela, il n'y a pas de réponse. Merci Yaya Boudani. Pascal Canfin, votre réaction?
Alors, je ne connais pas dans le détail la situation au Burkina. Celle qu'on connaît mieux grâce aux enquêtes du Monde et France Inter, c'est la situation en Guinée, où les populations locales, les élus, voire même les préfets, qui sont préfets, donc l'autorité de l'État, localement, disent officiellement, à visage découvert, si je peux me permettre cette expression, non pas simplement en coulisses ou off, que l'écart entre les promesses et la réalité est colossal, et d'une part, et d'autre part, que cet opérateur-là est plutôt un opérateur low cost par rapport à d'autres opérateurs miniers qui ont de meilleures pratiques. Donc, je ne connais pas, encore une fois, la situation Burkina, elle a l'air assez gérée, mitigée. Il y a des plans de gestion, donc sur le papier, tout va bien. De toute façon, avec les opérateurs miniers, par construction, tout va bien sur le papier. La question, c'est ensuite, c'est la réalité. Bon, je ne peux pas me prononcer. En revanche, ce qu'on sait, c'est que globalement, voilà, dans l'industrie minière, Norgold est positionné comme un opérateur low cost.
Et puis la question aussi, c'est en 2018, est-ce que l'exploitation minière, est-ce qu'elle est plus rentable pour un pays et pour une région d'un pays comme par exemple en Guyane? Et vous avez publié cette semaine un rapport que vous aviez commandé au cabinet d'études de Loi sur l'activité économique en Guyane et ses perspectives. Et il en ressort justement que le secteur extractif est celui qui a les plus faibles effets d'entraînement sur l'économie locale.
C'est le cœur de notre bataille aujourd'hui. C'est de ne pas laisser penser aux Guyanais que si jamais ils acceptaient ce projet, je rappelle que 70% des Guyanais sont opposés à ce projet, pour deux grandes raisons. La première raison, c'est que c'est l'impact sur leur environnement. Et deux, c'est le fait que justement, ce soit des capitaux étrangers dont ils ne savent pas très bien si ça va vraiment profiter au territoire. Et l'or qui va être extrait de l'Amazonie française va principalement aller dans les coffres de la Banque centrale de Russie, puisque les banquiers centraux sont parmi les premiers acheteurs au monde et la Banque centrale de Russie, la première acheteur au monde d'or. On ne voit pas bien l'utilité sociale, si vous voulez, pour la France et pour ce territoire.
Alors, dans
de
le
Guyane.
Reportage, donc, on entendait que ça allait créer des emplois.
Alors, donc, du coup, la question qu'on se pose, c'est évidemment, la Guyane a besoin de créer des emplois. Il y a 22% de chômage. Les 700 emplois qui vous sont promis, emplois directs promis par Norgold, ils vont très probablement, si ce projet se faisait, se créer. La question n'est pas là. La question est si l'argent public qui était mobilisé pour ce projet était mobilisé pour d'autres projets. Et je rappelle que l'argent public qui est mobilisé sur projet, il est colossal. Entre, selon les estimations qui sont celles du WWF et celles de Norgold, comme ça je vous donne la fourchette, entre 450 000 euros publics, les nôtres, les vôtres, par emploi créé, ça c'est les estimations Norgold, et les nôtres c'est 550 000. On voit bien que même 450 000 euros publics pour créer un emploi qui va disparaître en 12 ans, puisque c'est la durée de l'exploitation prévue de la mine, c'est juste une aberration du point de vue de l'utilisation de l'argent public rare. Et donc la question qu'il faut se poser, si j'étais élu en Guyane ou chargé du développement économique de la Guyane, c'est de me dire, mais avec cet argent public le même, est-ce que je ne peux pas créer beaucoup plus d'emplois dans d'autres filières? adossé évidemment à des projets privés. Et là, c'est l'étude de Loate que nous avons fait réaliser, puisque nous n'avons pas au WWF ces compétences en interne. Eh bien, ça montre que l'industrie extractive est le secteur où l'argent qui est investi, l'argent public comme l'argent privé, est celui qui crée le moins d'emplois pour le territoire par rapport à d'autres secteurs comme le tourisme, comme la pêche, comme la foresterie, comme les énergies renouvelables, comme l'agriculture. Donc c'est très important de surtout de ne pas opposer ceux qui défendraient le développement économique d'un côté et de l'autre ceux qui voudraient mettre la Guyane sous cloche. C'est que même au nom du développement économique, le meilleur projet n'est clairement pas celui-là.
Est-ce que c'est le cas aussi ailleurs qu'en Guyane? Parce que finalement, là, on parle d'un cas particulier.
Vous connaissez cette expression à RFI de la malédiction des matières premières. Tous les pays qui ont misé pour leur développement sur l'extraction des matières premières présentes dans leur sous-sol, le gaz, le pétrole, l'or et d'autres minerais, en confiant cela à des multinationales étrangères, l'immense majorité de ces pays, il y aura forcément peut-être une exception quelque part, subissent ce qu'on appelle la malédiction des matières premières. Et c'est vrai aussi pour le Burkina, on y était il y a quelques minutes, c'est vrai pour la Guinée, c'est vrai pour le Suriname voisin. Dans la plupart des cas, et j'ai cette liberté de parole pour le dire, c'est ce type de projet s'accompagne d'une mauvaise gouvernance, s'accompagne d'un mal développement, s'accompagne du fait que certaines élites peuvent éventuellement toucher au passage une partie du jackpot, mais certainement pas la population locale. C'est ce que disait la personne qu'on a entendue dans le reportage des tribus amazoniennes. Donc on voit bien que miser en 2018 sur ce type de projet pour le développement de la Guyane, c'est vraiment ne rien avoir compris, pas avoir tiré les leçons du passé autour et de ne pas avoir compris dans quelle époque on allait. Il y a un pays qui a tiré cette leçon, c'est le Costa Rica. Costa Rica, aujourd'hui, majoritairement est sorti de cette économie du passé à base d'extraction de minerais et de fossiles pour se tourner vers les renouvelables. Ils sont plus de 100% d'électricité à base de renouvelables et pour se tourner vers l'écotourisme. Vous avez aujourd'hui 60 000 Français qui vont au Costa Rica. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher une expérience d'écotourisme dans une forêt tropicale, pour simplifier. Ce marché-là, pourquoi la Guyane n'irait pas le chercher?
Donc il y a des choix politiques clairs à faire pour faire les bons
choix dans les bonnes filières, la pêche, l'agriculture, l'exploitation durable de la forêt amazonienne, c'est tout à fait possible de le faire en renouvelant le capital naturel, l'écotourisme. Et quand on aura fait tout ça, qu'on aura créé beaucoup plus d'emplois avec le même argent public dépensé que dans l'extractif, si malgré le fait d'avoir fait tout ça, il faut se poser la question de l'extractif, pourquoi pas? Mais il ne faut pas inverser la machine. Et donc, il faut arrêter tout simplement ce projet. Et le gouvernement peut le faire de manière très, très simple. Le terrain, la concession sur laquelle Montagne d'Or doit opérer, cette autorisation s'arrête en décembre. C'est une autorisation de concession qui date de 1946. C'est vous dire si on parle bien de l'économie d'hier et pas de celle de demain. Et donc, le gouvernement peut ne pas renouveler le droit à exploiter sur cette concession, c'est en décembre. Et donc la décision peut advenir très vite et en décembre, le projet est arrêté.
Merci Pascal Canfin d'être passé dans ces vagues du vent. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.